connaissance qu'on organise avec le laboratoire Forel de l'Université de Poitiers et bien sûr avec l'Université de Poitiers, dont le président est ici ce soir. Voilà, c'est une conférence de Jean-Pierre Legoff, qui est professeur de mathématiques à l'UFM et IRM de Basse-Normandie. Ex, tu m'as dit ?
Été.
Été, voilà. Donc, tu ne fais pas que ça. Tu es aussi professeur épisodique, tu dis, mais ça c'est ton humour, l'histoire de l'art à l'école supérieure d'art et médias du Forum et au service culturel du musée du Louvre. Donc tu poursuis depuis 30 ans et jusqu'à plus tard, ça c'est vrai, des recherches dans le domaine de l'histoire des sciences et des techniques et singulièrement de la perspective du double point de vue des sciences et des arts. En effet, on a déjà travaillé ensemble dans le cadre du stage UFM, tu as la gentillesse de venir chez nous. Il est vrai que dans la communauté des historiens des sciences, quand on pense sciences et arts, on pense à toi. C'est vrai.
Je ne sais pas, mais...
Il y a peu de personnes dans la communauté des historiens des sciences et qui travaillent sur ces perspectives-là.
Il y a des gens sur la musique.
Sur la musique,
oui, voilà. Des gens sur la musique.
Donc, tu participes aussi à l'Université populaire de Caen et tu proposes pour la sixième année un séminaire de philosophie d'histoire des mathématiques et pour la deuxième, un séminaire sur les rapports théorie-pratique en architecture. Tu as contribué à la mise en place à cette rentrée d'un diplôme universitaire de culture artistique approche croisée à l'UCBN qui vient de débuter en novembre. Alors le titre de ton intervention, Jean-Pierre, intrigue tout le monde.
Oui.
Je vais le lire. Hein, donc, voilà. Dialectique du langage, de l'image et de la notation symbolique dans les livres à figure entre guillemets. L'exemple programmatique du premier traité Morae Geometrico de l'histoire de la perspective de Prospectiva Pigeni de Piero della Francesca. Donc Jean-Pierre, on t'écoute parce que déjà...
Rien que le titre...
Le titre est déjà en soi une conférence.
Mais je l'énonce et après j'ai fini à peu près.
Voilà, absolument pas. C'est qu'on a besoin d'explications sur ton titre. Nous t'écoutons avec plaisir pendant une heure. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Non, c'est moi qui remercie à la fois l'Espace Mendès France, Anne Bonnefoy, et puis le Laboratoire Forel de cette invitation à vous parler de cet objet étrange qu'est le De Prospectiva Pingendi de... Piero della Francesca. Parmi les grands hommes de ma vie, il y a Piero della Francesca d'un côté, et il y a aussi Gérard Desargues. Et en 1639, cet homme-là écrit un brouillon projet d'atteinte aux événements des rencontres du Cône avec un plan. Et c'est à l'image de ce genre de titre à rallonge que j'ai intitulé cette conférence. Dialectique du langage, de l'image et de la notation symbolique dans les livres à figure, etc. etc. Oui, parce que... On ne fait pas toujours assez attention à cette question-là. C'est qu'un ouvrage, à partir du moment où l'imprimerie le permettra, un ouvrage qui traite de questions de géométrie pratique et plus singulièrement de perspective ou d'autres choses, c'est un ouvrage qui ne dit pas seulement les propriétés des figures, mais qui utilise ces figures et qui les utilise de manière excessivement parlante. Dans le cas de la perspective, c'est encore plus le cas dans la mesure où le projet affiché, c'est justement de créer des images qui sont censées rendre compte du réel, donc de passer des trois dimensions que nous connaissons aux deux dimensions de la feuille de papier ou de la fresque ou du tableau, suivant les usages. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas regarder les traités de perspective de façon générale quand on essaie d'en faire l'histoire et plus généralement les livres à figures en ne tenant compte que du discours linéaire écrit mais en tenant compte aussi de ces fameuses figures. Alors il est clair que c'est vrai pour la plupart des sciences. Moi je m'attacherai à le montrer pour des sciences qui gravitent autour des mathématiques, l'architecture et la peinture ici en l'occurrence essentiellement. Mais ça touche à des tas de domaines, puisque dans ces livres à figures, on peut trouver, je vais en montrer évidemment, on peut trouver des figures tout à fait étonnantes qui ont conduit, par exemple, à la modification du décor de théâtre à la Renaissance, du simple fait que la perspective centrale a conduit aussi à modifier le mode de décor du théâtre, puisqu'elle a conduit à ce qu'on appelle la perspective accélérée ou la perspective relief. Donc ce que l'on va regarder essentiellement aujourd'hui, c'est l'œuvre d'un mathématicien qui s'appelle Piero della Francesca. Que ce soit un mathématicien, j'en veux pour preuve qu'il a écrit trois traités de toute première importance pour l'histoire des mathématiques. Il a écrit un traité d'algèbre. Il a écrit un traité de perspective, le De prospectiva pingendi, qui va être l'objet central de ce que je vais dire. Et il a écrit un traité sur les corps platoniciens ou sur les corps réguliers. Celui-là en latin, encore que je ne pense pas qu'il maîtrisait complètement le latin, mais probablement en travaillant avec un certain Matteo del Borgo, qui habitait à Borgo San Sepolcro, d'où il était lui-même originaire. Alors Piero della Francesca, dont vous voyez ici un portrait un siècle après, parce qu'il s'agit d'une gravure qui illustre les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, rédigées par Vasari, publiées vers 1568, quelque chose comme ça. Et pour chacun des peintres que Vasari dont Vasari nous propose la vie, plutôt, eh bien, il y a un portrait, et vous voyez ici un portrait de Piero della Francesca, qui venait donc de Borgo San Sepolcro. Alors, les livres à figures, d'abord, eh bien, il en existe de toutes sortes. Je vais en montrer deux pour souligner déjà un fait d'importance qui peut faire comprendre que le traité de Piero della Francesca soit resté finalement manuscrit. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu corps et bien. Il y a eu de nombreuses copies. C'est un ouvrage qu'il va recommencer sous forme manuscrite en latin, avec de toutes petites différences de texte sur lesquelles je m'expliquerai tout à l'heure. Mais il n'a jamais connu la presse, si ce n'est en 1899 pour la première fois. C'est un érudit de Strasbourg qui publie le texte italien tel qu'il l'avait transcrit à partir du manuscrit dit de Parme, dont je suis parti aussi pour ma propre version, avec de nombreuses corrections par rapport à cette version de Winterberg en 1899. Et ce manuscrit donc est resté à l'état de manuscrit, mais avec des copies, une version latine qui est à Milan, et on trouve par exemple des versions italiennes ou latines en Italie, plusieurs, et en particulier aussi en France, à Bordeaux, ce qui fait que ce n'est pas inintéressant de voir que ce traité a beaucoup circulé. Il a d'ailleurs, on le verra, eu une assez bonne fortune critique, et il a été utilisé par un certain nombre de personnages dont je montrerai la manière dont ils ont largement copié ce texte. Alors, je voudrais d'abord montrer la différence entre les livres à figures d'une époque où l'on gravait sur bois et les livres à figures d'une époque où on gravait sur cuivre. Vous comprendrez aussitôt, en voyant ensuite quelques figures de Piero della Francesca dans la suite de l'exposé, qu'il paraissait tout à fait impossible, en effet, que cet ouvrage-là soit publié tel qu'il était. Alors que un traité d'architecture comme celui de Sebastiano Serlio, dont la première édition du livre 1 et du livre 2 date de 1545. Le livre 1, c'est de la géométrie pratique. Le livre 2, c'est un traité de perspective. Il paraît à Paris parce que Serlio avait publié déjà les livres 3 et 4 en Italie et en italien. Il arrive en France quelques années avant la date de parution de son traité de perspective. Et là, c'est un ouvrage bilingue qui paraît en 1545. Vous voyez que vous avez à la fois le titre en italien et le titre en français du premier livre de géométrie, suivi d'un livre de perspective, donc, avec une traduction de l'humaniste bien connu Jean Martin. Alors, quand vous regardez les figures que l'on trouve dans l'ouvrage de Serlio, on voit que nécessairement, elles pâtissent évidemment du passage de la feuille à dessin à la gravure et donnent des choses qui sont relativement simples comme celle-ci et qui sont tout à fait lisibles. Mais d'autres figures beaucoup plus complexes posent certains problèmes. On arrive quand même à un résultat qui est relativement satisfaisant. Je vous montre cette image juste pour mémoire. En fait, elle est composée de deux planches de Serlio qui touchent justement au décor de scène. C'est le premier qui va théoriser cette question du théor de scène, du décor de scène en perspective accélérée, avec un système qu'il décrit abondamment dans son traité. Mais les figures qu'il va donner, on en reverra d'autres par la suite, parce qu'il s'est inspiré pas mal de Piero della Francesca, sont des figures beaucoup plus élémentaires que celles que Piero della Francesca dessine lui-même de sa main dans les deux versions, italienne et latine, que l'on connaît de lui. La version latine, le texte est probablement de la main de Matteo del Borgo, mais les figures sont dans les deux cas de Piero della Francesca. La raison tient au fait que ces figures, il les dessine, et au fur et à mesure qu'il fait les constructions, il écrit le texte qui accompagne les constructions. Si vous changez, au moment de passer à la gravure, si jamais, du fait que vous gravez sur bois, vous passez à quelque chose qui peut produire une toute petite différence d'un millimètre, et vous savez que la gravure sur bois, c'est quand même relativement peu précis, si vous bougez un petit peu d'un millimètre, vous changez l'ordre de construction et la figure devient incohérente vis-à-vis du texte. Vous verrez avec les figures de Piero della Francesca que ça va très très loin. En revanche, lorsqu'on arrive au XVIIe siècle avec la gravure sur cuivre, avec des gens comme Callot et puis ensuite l'un de ses élèves Abraham Bosse, eh bien, on obtient par exemple dans des sciences apparentées à la perspective comme la stéréotomie, c'est-à-dire la pratique du trait à preuve pour la coupe des pierres, on obtient à ce moment-là des intailles ou des gravures qui sont d'une très grande qualité avec une précision beaucoup plus fine puisque tout cela est obtenu, vous le savez, par jet d'acide sur une plaque de cuivre préalablement protégée par de la cire dans lequel on entaille avec des poinçons très très fins, beaucoup plus fins évidemment que dans la gravure sur bois. Alors ça donne des planches qui sont, vous le voyez, capables de produire des ombres très très fines par des procédés diverses et variées, ou encore pour ce qui est de planches de mathématiques comme le traité des pratiques géométrales et perspectives du même Abraham Bosse, vous voyez le frontispice qui est extrêmement fin, et lorsque par exemple il traite de tracés de courbes coniques comme ici, eh bien on peut avoir plusieurs lignes qui se suivent dans un mouvement de déplacement de la ligne avec des précisions tout à fait importantes. Ici, il s'agit du tracé du jardinier tout en bas et puis deux autres procédés que je ne vais pas détailler, mais qui sont autant d'exemples d'un passage à des procédés beaucoup plus performants, évidemment, que la gravure sur bois. Alors, pour vous donner une idée donc, de ce qu'est Piero della Francesca, j'ai dit qu'il était mathématicien, et quand on voit, par exemple, cette image, on comprend d'abord la finesse des lignes. Imaginez qu'il s'agisse de représenter ça ensuite par la gravure. Il est clair qu'avec la gravure sur bois, vous auriez beaucoup de difficultés. C'est un mathématicien, ai-je dit. Il se trouve aussi, mais vous le savez sans doute, que c'est un peintre. C'est un peintre, mais je vais vous montrer à quel point il est mathématicien. Voici par exemple une sainte conversation qui est à la Brera de Milan. Eh bien, vous avez ici un personnage, je pense que vous les voyez à droite, ils sont facilement reconnaissables, ce sont deux moines qui portent l'habit franciscain. L'un d'entre eux, celui qui est le plus à droite, est en fait le portrait d'un des élèves de Piero della Francesca qui s'appelle Luca Pacioli. Or, Luca Pacioli n'est pas un peintre, c'est un géomètre. Et c'est un géomètre qui va tirer des leçons et en donner, vous le voyez ici en train d'en donner, c'est une peinture de Jacopo de Barbaro qu'on peut voir à Naples, et ce personnage donc va donner des leçons, il va donner probablement des leçons de perspective à Léonard de Vinci puisqu'il a signé avec lui un traité de la divine proportion dans lequel il reprend les corps réguliers de Piero della Francesca, c'est-à-dire que le libellus que Francesca avait rédigé sera imprimé en effet par Luca Pacioli avec des figures de Léonard de Vinci au tout début du XVIe siècle. Piero della Francesca est mort en 1492 et par conséquent, là vous avez affaire à un traité qui paraît en 1504 si ma mémoire est bonne. Alors, on connaît les œuvres de Piero della Francesca. Je vais quand même modérer mon propos. Certes, c'est un mathématicien, mais s'il écrit les trois traités dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il essaie de donner des moyens à des peintres, à des orfèvres, à toutes sortes de corps de métiers qui travaillent dans des corps de métiers qui nécessitent beaucoup de dessin et de graphisme. L'algèbre est en fait essentiellement fait pour permettre les calculs. Ça n'est pas une algèbre littérale, c'est une algèbre qui se situe entre la redécouverte de l'algèbre, la découverte plus exactement de l'algèbre du monde arabo-musulman. En 1200, vous savez, Léonard de Pise ramène un texte qu'il a trouvé lors de ses voyages au Moyen-Orient. C'est en fait l'algèbre d'Al-Khwarizmi, qui ont donné respectivement le mot algèbre et le mot algorithme. Et il écrit cela pour permettre à des gens qui travaillent, par exemple, qui ont à acheter des couleurs, qui ont à calculer des volumes lorsqu'il s'agit de faire de l'architecture, etc., pour leur permettre de faire ce type de calcul. Mais ça peut aller très loin, cet algèbre de Piero della Francesca. Et je dirais que c'est le chaînon manquant, parce que c'est encore quelque chose qui est resté à l'état de manuscrit, entre Léonard de Pise, Fibonacci, donc, qui avait ramené le texte d'Al-Khwarizmi, et le traité de Luca Pacioli, qui paraît à la fin du XVe siècle, qui est la summa d'arithmétique de Luca Pacioli. Et cette summa est fortement inspirée du travail de Piero della Francesca, là encore. Il écrit ensuite les corps réguliers parce qu'il pense que pour représenter la totalité de cet espace qui ne porte pas encore ce nom à cette époque de l'histoire, mais de cet espace dont Giotto a ouvert les portes quelque temps auparavant par des boîtes d'espace, eh bien, il est nécessaire de connaître les figures essentielles de la géométrie et entre autres donc les corps platoniciens. C'est ce que reprendra Luca Pacioli dans ce qu'il appelle la divine proportion, puisque ça porte aussi évidemment sur le fameux nombre d'or. Alors Piero della Francesca va peindre par exemple cette flagellation du Christ qui est tout à fait reconstituable sur le plan perspectif. Ça a été fait d'ailleurs dans un film tout à fait remarquable de la collection Palette, qui met en évidence que cette peinture nouvelle que propose Piero della Francesca et un certain nombre d'autres peintres de la Renaissance italienne, déjà dans la tradition siennoise et avec Giotto, mais ensuite avec un certain nombre de peintres de la tradition. J'ai dit Pise, excusez-moi, c'est pas Pise, c'est... Oui, Giotto et Florentin, mais je pense à la tradition d'une autre ville de Toscane dont le nom m'échappe, c'est pas très très grave. Ça me reviendra probablement, enfin peu importe. Et donc ce tableau est tout à fait intéressant à plus d'un égard. Je ne sais pas si on aura le temps de le commenter du point de vue de la géométrie, non seulement bien entendu, pardon, oui c'est ça, il est au palais d'Urbino, en effet, c'est un petit tableau, vous le voyez ici sans son cadre, ce qui permet d'avoir exactement la surface picturale du panneau avec la partie qui a été effectivement peinte par Piero della Francesca, préparée sans doute par un fond d'abord pour permettre de faire son glacis, et puis ensuite, oui, parce qu'il utilise un tout petit peu la peinture à l'huile, Piero della Francesca. Et donc vous avez ici un tableau qui est tout à fait intéressant parce que non seulement il traite de la perspective centrale de façon tout à fait cohérente, en utilisant d'ailleurs une situation basse de l'œil que l'on peut voir ici par quelques traits de lignes de fuite, mais encore, il présente un intérêt de construction interne qui fait intervenir ce qu'on appelle le rectangle harmonique, c'est-à-dire un rectangle dont le rapport des côtés est égal à racine de 2. C'est tout à fait intéressant parce que cette composition particulière à Piero della Francesca le conduira à séparer le monde du Christ flagellé, qui n'est pas encore flagellé, comme vous pouvez le voir, et le monde des personnages qui sont à droite, dont Carlo Ginzburg faisait remarquer que très probablement, il s'agissait d'une ambassade du personnage qui a cette coiffure un peu singulière, d'une ambassade de la chrétienté d'Orient, donc byzantine, auprès de la chrétienté romaine, et en particulier ici de personnages probablement de la ville de Florence, pour essayer d'emmener la chrétienté d'Occident au secours d'une Byzance qui ne va pas tarder à tomber, effectivement, sous les coups de l'Empire ottoman. Donc, la construction même du tableau peut mettre en évidence que le personnage qui est avec cette coiffure étrange dont je parlais, Carlo Ginzburg le reconnaît comme un prélat qui restera ensuite en Occident, est isolé dans le tableau par la construction même que Piero della Francesca propose. Si on a le temps, on regardera ça plus tard. Alors, Piero della Francesca a un parcours qui passe, je dirais, du gothique international, avec ces figures dont on voit qu'elles peuvent être de taille tout à fait différente, quand on voit cette Vierge qui couvre de son manteau un certain nombre de personnages qui sont beaucoup plus petits qu'elle, et tous sont représentés sur fond doré. Cela dit, quand on regarde la prédelle en bas du tableau, on s'aperçoit que cette prédelle comporte déjà des ciels qui sont à l'image de ceux que proposait Giotto peu de temps auparavant. Par contraste, lorsque l'on regarde cet autre tableau de Piero della Francesca, ce doit être un Saint Nicolas, si ma mémoire est bonne, vous avez un ensemble de données qui est tout à fait remarquable. Non seulement le ciel est bleu, de ce bleu si particulier à la Toscane et à l'Ombrie, que l'on retrouvera chez un certain nombre d'élèves de Piero della Francesca, comme le Pérugin, Pietro Vannucci, qui est celui qui transmettra l'héritage de Piero della Francesca, en particulier à Raphaël, puisque Raphaël est un élève de Pérugin. Et ce personnage est tout à fait intéressant parce qu'on peut y voir l'influence flamande dans le traitement des étoffes, encore qu'il n'utilise pas ici de manière unique, encore une fois, la peinture à l'huile. Mais le traitement des étoffes est tout à fait différent. Alors que les étoffes flamandes, les velours, sont frappés d'éléments décoratifs, ici, vous avez tout simplement la représentation de tableaux dont certains sont de Piero della Francesca. Certains sont perdus. Il faut savoir qu'il a peint, par exemple, dans la chapelle Sixtine et que ça a été recouvert. Mais on retrouve, par exemple, des éléments ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez le petit... oui, c'est ça, vous voyez l'index ici, qui montre une annonciation, qui est quelque chose que l'on connaît de Piero della Francesca, le baptême du Christ, etc. Autant d'éléments qui font partie de l'œuvre de Piero et qui sont représentés non seulement en perspective, mais en perspective double dans la mesure où ils sont représentés autant qu'épousant les plis du manteau. Qui plus est, quand vous regardez la crosse, qui est en vert transparent, eh bien, cette crosse déforme par un procédé optique ce qui est derrière, et ça montre à quel point Piero della Francesca était intéressé à ces questions d'optique. Quand on regarde... Quand on regarde... Alors j'espère, oui, voilà. Quand on regarde cette Vierge à l'enfant, tout à fait remarquable aussi, on voit par exemple les rayons visuels, les rayons lumineux qui passent par les jalousies de la fenêtre et qui sont repérables par cette sensibilité qu'il a eue au fait que des petites particules de poussière volent dedans. C'est-à-dire que quand on regarde de très très près ce tableau, on voit très nettement ces rayons lumineux représentés comme un ensemble de petites poussières qui volent. Pour donner encore un autre exemple de cela, vous avez ce tableau un peu composite, dont la partie supérieure est une annonciation qui est tout à fait intéressante à analyser. La partie inférieure relève à la fois du gothique international avec les fonds dorés, mais on commence à y voir, par exemple, ici, quelque chose qui évoque par avance ce qu'il fera dans le tableau de la Brera qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette coquille représentée en perspective avec des ombres portées. Mais vous avez surtout cette annonciation qui avait été fort bien analysée par Louis Marin il y a quelques années, dans laquelle on peut voir que l'ange et la Vierge sont face à face, exactement comme dans les annonciations que l'on représente très fréquemment à cette époque, avec une colonnade qui sépare les deux mondes, le monde de la Vierge et le monde de l'ange. Mais si l'on regarde le sol, on s'aperçoit que la Vierge et l'ange sont sur la même rangée blanche qui coupe le carrelage au sol. Et si l'on fait comment dire, une vue en plan de la situation, on s'aperçoit qu'au croisement de ce carrelage au sol se trouve une colonne qui empêche que ces deux-là puissent se regarder, se voir. Et donc il y a là un empêchement à la rencontre qui va permettre que la Vierge se trouve enceinte du Saint-Esprit. Il est aussi le peintre de fresques monumentales qui sont conservées à Arezzo, qui ont été récemment restaurées tout en laissant les manques. C'est un changement dans la façon de restaurer les œuvres en Italie, parce qu'on a vu des choses assez différentes, par exemple avec le printemps de Botticelli. J'ai eu la chance de me trouver en 92, au moment où un colloque avait été organisé pour le quatrième centenaire de la mort de Piero della Francesca, le cinquième, pardon, et de pouvoir visiter les fresques en cours de réfection en ayant le nez dessus, parce que sinon vous savez qu'on est en bas dans l'église et qu'on ne peut pas voir en situation ces tableaux-là. La croix qui est portée à droite, hein, c'est l'invention de la vraie croix, le cycle de l'église d'Arezzo, et donc vous avez cette croix qui est dessinée. On peut voir en dessous le dessin préparatoire fait au Spolvero, très probablement, qui est un dessin qui montre que les lignes de fuite de cette croix sont traitées effectivement de façon tout à fait convenable par Piero della Francesca, et on retrouve des solutions sur la droite, des solutions de maisons fuyantes qui sont tout à fait dans la veine de l'école d'Urbino que Piero della Francesca va créer. Je pense en particulier à certaines cités idéales que l'on verra peut-être un petit peu plus tard. Alors je passe sur l'analyse dont je parlais tout à l'heure pour y revenir éventuellement s'il y a des questions là-dessus, pour aller voir maintenant ce qu'il en est de la question perspective chez Piero della Francesca. Je dis que c'est le premier traité de perspective rédigé more geometrico. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'auparavant, très peu de choses sont parues et encore moins imprimées. Le premier imprimé en latin, d'ailleurs, d'un auteur italien, ce sera le De Scultura de Goricus qui paraît au début du XVIe siècle. Or, la perspective est inventée autour de 1420-1430-35, ou réinventée, mais enfin, on va dire inventée, en l'occurrence, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. On se pose des questions évidemment sur les capacités des Grecs et des Romains à produire ce genre de choses quand on voit certaines fresques à Pompéi, mais enfin, nous dirons inventer. Et cette invention est le fait de Brunelleschi, on le verra tout à l'heure, et d'Alberti, qui sont des architectes. Ces architectes vont proposer un modèle nouveau de représentation qui fait que le regard que les hommes vont porter sur le réel va se trouver doublé par une nouvelle vision qui est une représentation plane de ce réel, mais une représentation qui semble tellement fidèle à ce que les uns ou les autres pouvaient constater et qui avait été décrit déjà par Euclide dans son optique. On dit quelquefois le pseudo-Euclide dans la mesure où on n'est pas du tout certain que l'optique en question soit d'Euclide, et elle a été transmise par un certain nombre de gens au fil de l'histoire. C'est la connaissance, disons, intuitive des choses est relevée de ce qui a été appelé longtemps une perspective naturelle, perspectiva naturalis. On parlait soit d'optica, soit de perspectiva, mais à un moment donné, les deux vont diverger. Cette perspective ou cette optique naturelle s'intéresse aux effets de la vision, essaie de comprendre le phénomène de la vision, essaie de le comprendre d'un point de vue géométrique, c'est le cas d'Euclide, ou d'un point de vue physiologique, c'est le cas d'Euclide aussi un petit peu, mais aussi de ceux qui vont lui succéder, en particulier dans le monde arabo-musulman, des gens comme Ibn al-Haytham et d'autres, vont essayer de comprendre ce qu'il en est de cet œil qui sera bien vite disséqué, dont on essaiera de comprendre en particulier comment il fonctionne dans la mesure où c'est un globe et non pas un point, alors que la perspective qui va devenir artificielle, inventée par les peintres de la Renaissance et nommée perspective artificielle au début du XVIe siècle par un des premiers auteurs de traités de perspective imprimé qui est français, qui s'appelle Jean Pellerin, dit Viator, eh bien ce travail sur la perspective va conduire à cette perspective artificielle qui n'a plus rien à voir avec l'optique et la perspective naturelle, dans la mesure où elle ne s'occupe plus de la question de la lumière, de la perception de la lumière, de la perception des objets par l'œil, mais elle s'occupe de la représentation du réel. Ce passage à la représentation est tout à fait essentiel, parce que du jour où l'on est en mesure de rendre compte du réel sous une forme plane et restituable, on vient d'inventer un procédé qui va bouleverser le regard du perspecteur occidental, de celui qui regarde le monde. À tel point que les conséquences vont être tout à fait importantes. Erwin Panofsky va parler de forme symbolique, suivant en cela la leçon d'Ernst Cassirer, mais cette forme symbolique pour la peinture n'est pas qu'une forme symbolique pour la peinture, elle est aussi un nouveau procédé qui va, dans le domaine des sciences et des techniques, produire des effets tout à fait étonnants. Dans le domaine de la science, et en particulier de la géométrie, elle va permettre à terme la possibilité de penser de nouvelles géométries qui vont rompre avec la tradition euclidienne. Certes, Piero della Francesca, comme n'importe quel géomètre de géométrie pratique de son époque, se met à couvert en citant Euclide, aussi bien l'Euclide des éléments que l'Euclide de l'optique, mais c'est la doxa, on va surtout pas toucher à ça, mais en proposant cette méthode qu'il va développer sous forme géométrique à partir des premières expériences d'Alberti et de Brunelleschi, il donne à voir quelque chose qui va produire des effets tout à fait étonnants. En particulier, je ne peux pas développer entièrement ça, mais au XVIIe siècle, le fait que les peintres ayant donné à voir des images dans lesquelles des parallèles se rencontrent, ils vont donner à voir ce qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, le point à l'infini, c'est-à-dire qu'ils vont donner à voir l'infini. L'infini qui jusque-là était potentiel chez Euclide va devenir un infini actuel. Ils donnent à voir aussi la possibilité de penser un espace antérieur à la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Descartes, qui est pourtant quelqu'un qui essaie d'être en rupture avec les doxas antérieurs, qui essaie de montrer que la nouvelle philosophie peut dépasser, en particulier en termes de physique et de métaphysique, celle des anciens, Descartes considère toujours que la matière et l'étendue, c'est la même chose. De ce point de vue, il est dans la tradition aristotélicienne, la nature a horreur du vide. Qui va rompre avec cela? Eh bien, un ami à lui, qui s'appelle Gérard Desargues, et qui est le professeur de mathématiques, d'une certaine manière, enfin de géométrie en tout cas, de Blaise Pascal. Ce Gérard Desargues va comprendre que des faisceaux de droite parallèles, c'est la même chose que des faisceaux de droite concourantes. Et c'est la perspective qui lui permet de penser ça. Donc, la conséquence ultime de cela, c'est qu'il va créer un nouvel objet qui donnera finalement la naissance à une géométrie projective au 19e. Et il faut que vous sachiez que s'il n'y avait pas cette géométrie projective, je suis désolé de parler un peu en termes finalistes, mais ça permet de comprendre un petit peu l'importance de ce qui se joue dans la question de la perspective et de son invention, eh bien, il n'y aurait pas eu la possibilité de penser les géométries non euclidiennes. Ces géométries non euclidiennes ont besoin du cadre projectif pour exister. Et ensuite, les inventions d'Einstein, la relativité restreinte et générale, ont besoin de la géométrie hyperbolique pour exister, c'est-à-dire pour trouver un modèle cohérent de mathématiques qui permette de rendre compte de cet espace à quatre dimensions faisant intervenir un temps qui n'est plus absolu. Donc l'enjeu est énorme. Du côté des techniques, l'enjeu est énorme aussi parce que
cette perspective centrale qu'inventent les peintres de la Renaissance, elle va produire, comme un effet de domino, des inventions multiples sur les modes de représentation de l'espace. Et entre autres, elle va permettre de géométriser des modes qui jusque-là étaient empiriques et que l'on a tort de nommer perspective cavalière lorsqu'il s'agit d'œuvres antérieures à l'invention de la perspective centrale, car le nom de perspective cavalière ou de perspective parallèle sera donné à des modes de représentation géométrisés, beaucoup plus simples que la perspective centrale, mais qui n'avaient pas encore de réalité théorique avant l'invention de la perspective centrale. Ça fait, si vous voulez, que le dessin géométrique, la géométrie descriptive de Monge, toutes ces méthodes que l'on va retrouver à l'œuvre, par exemple, d'abord dans l'encyclopédie, puis dans la stéréotomie, c'est-à-dire dans l'art de couper les pierres dont on a parlé tout à l'heure, ou dans la gnomonique, toutes ces sciences qui se développent à grands pas au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui existaient auparavant, mais qui utilisaient des méthodes empiriques, eh bien, toutes ces inventions vont produire, finalement, probablement, le décollage des sciences et des techniques dans le monde occidental de façon indirecte grâce à leur reproductibilité du réel. Autrement dit, le monde industriel du monde occidental doit beaucoup à l'invention de la perspective centrale. Donc, finalement, pour reprendre ce que disaient les situationnistes au XXe siècle, la société du spectacle et le monde post-industriel, eh bien, il ne le disait pas, mais moi je le dis, il est ancré dans l'invention de la perspective centrale. Alors, quelle est cette perspective centrale? Il s'agit en fait de dire, nous allons regarder le réel et nous allons penser le cône et la pyramide visuelle de tous les rayons qui partent d'un œil supposé ponctuel. C'est en ça qu'il s'agit évidemment de quelque chose d'extrêmement conventionnel et pas du tout d'une réalité physique, bien entendu. Il n'y a qu'un seul œil, nous sommes des cyclopes, et notre œil est réduit à un point. Et nous regardons au travers d'une vitre. Cette vitre représente, est un plan de projection, c'est le plan du tableau, et c'est cela que nous allons essayer de représenter. L'idée d'Alberti, ça va être de représenter un quadrillage au sol qui va être régulateur de la chose. Ce quadrillage au sol va être tracé à l'aide de rayons visuels vus de côté, c'est-à-dire qu'il voit à la fois la vue de face et la vue de côté. C'est à peu près le principe. L'idée, c'est que tout est déterminé par la distance de l'œil au tableau. Vous imaginez que l'œil est en train de regarder des lignes au sol qui sont placées sur ce qu'on appelle la ligne de terre, qui est à gauche ici, et l'œil regarde une subdivision égale. Et là où les rayons visuels qui atteignent les points de cette subdivision coupent le tableau, c'est là que se trouve l'emplacement des lignes successives, parallèles, qui sont derrière le tableau du quadrillage. Alors il y a un enjeu très fort là-dedans, et il paraît difficile que l'on ait pu faire autrement, vous allez le comprendre pourquoi tout à l'heure. Quelle est la grande idée de Piero della Francesca? C'est de ne tracer qu'un seul carré. Voilà une planche de son traité. Vous voyez que c'est du dessin fait au crayon assez fin. Et ceci est encore très très simple, mais quand vous verrez les planches qu'il réalise à partir de là tout à l'heure, vous comprendrez la difficulté. Voilà la figure telle que j'ai essayé de la reprendre pour donner des explications théoriques dans l'édition que j'ai faite de ce traité il y a quelques années. Et vous avez la représentation du carré BCGF qui est ici BCED. BCED, qui est le carré au sol dont Piero della Francesca a parlé auparavant. Alors, première idée, quand vous regardez cette figure, vous ne pouvez qu'être frappé, c'est BCED, oui, vous ne pouvez qu'être frappé par le fait que les lettres sont utilisées au fur et à mesure de la construction, comme chez Euclide. Mais il y a une innovation tout à fait essentielle et qui va jouer un rôle important dans le développement de la géométrie pratique par la suite, parce qu'elle sera reprise par un certain nombre de gens, c'est qu'un même point, qui peut être représenté plusieurs fois dans une même figure, parce que c'est le même point vu dans l'espace ou vu sur sa représentation ou ses diverses représentations, portera le même nom. C'est le début d'une transformation radicale de la pensée géométrique. Si nécessaire, ces points seront appelés d'un même nom avec des apostrophes ou des points au-dessus qu'il appelle des tictolis. Ça aussi, c'est une innovation majeure. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu cela dans les géométries pratiques. Vous comprendrez pourquoi c'est nécessaire chez lui. Donc, il relève un carré de la manière que l'on peut représenter comme ici. Et puis ensuite, il va en particulier s'intéresser à ce qui se passe sur les grandeurs qui sont ici. Les grandeurs au sol qui sont derrière le tableau en vue du dessus ici sont des grandeurs qui sont équidistantes les unes des autres. Dans la représentation perspective, elles vont diminuer en profondeur. C'est l'un des effets qu'avait déjà repéré Euclide sans en donner la loi. Piero della Francesca va en donner la loi numérique pour la première fois. Alors, ça, c'est une chose tout à fait essentielle parce qu'un certain nombre de commentateurs avaient dit qu'ils s'étaient trompés. Pas du tout. Ça correspond tout à fait à une loi cohérente et bien avant que Léonard ne donne une loi beaucoup plus simple dans un cas particulier. On attribue cette loi à Léonard et on a tort, elle est due à Piero della Francesca, sans compter que très probablement cette loi, Léonard a eu à la connaître en rencontrant Luca Pacioli. Une fois qu'il a tracé un carré, il va utiliser une construction interne. Je vais vous l'expliquer sur un certain nombre d'images très très simples. L'idée, c'est que vous avez un carré qui est représenté ici à la fois en vraie grandeur, qui est supposé être un carré au sol, et sa représentation perspective est supposée donnée par la méthode d'Alberti, la construction du premier carré. Une fois que vous avez ce premier carré, eh bien, les lignes qui sont parallèles ici deviennent des lignes qui toutes vont converger vers le point de fuite que vous voyez là. Et vous allez utiliser la diagonale du carré. Pourquoi ? Parce que la diagonale du carré va rester la diagonale du trapèze-image. Et ce qu'il va utiliser au fond, c'est un système de repérage par coordonnées à l'intérieur du carré réel et à l'intérieur du trapèze-image. C'est-à-dire qu'il va utiliser le niveau où se trouve un point, par exemple le point G, il va chercher le niveau sur la diagonale, le reporter ici, l'image de NK va fuir vers A, et par conséquent, en traçant une parallèle ici, à partir de K, vous retrouvez le point G sur la diagonale image, enfin le point K sur la diagonale image ici, et le point G sur la fuyante qui correspond à ce point G. De cette manière, il est en mesure de représenter en trois constructions de trois points l'image d'un triangle en position complètement scalène, c'est-à-dire tout à fait banale, à l'intérieur du carré donné. Ce sont des méthodes tout à fait étonnantes, mais qui ne suffisent pas pour des objets qui ne sont pas tributaires de la géométrie. Ces objets qui ne sont pas tributaires de la géométrie, ce sont par exemple une tête humaine. Alors, le voilà qui va utiliser le procédé que probablement Brunelleschi, ça c'est une page de son manuscrit, que Brunelleschi a probablement mis en place pour inventer la perspective. Et cette double projection, c'est-à-dire une projection, je vais vous donner l'image qui est peut-être plus lisible ici, une projection en vue du dessus et ce qu'on appelle une projection en vue de profil, il va croiser les éléments et obtenir l'image d'un carré au sol, comme vous pouvez le voir ici, sur lequel ensuite on peut élever un cube sans beaucoup de difficultés. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il utilise la double projection pour une figure géométrique aussi simple. Eh bien, vous allez le comprendre en regardant ce qu'il fait, en essayant, par exemple, non plus de prendre un cube en position très très ordinaire, posé sur le plan et vu de face, mais pour un cube qui est posé sur la pointe. Vous savez, ça fait penser à ces cubes que l'on met au-dessus d'un portail aujourd'hui en béton, qui tiennent sur une pointe. Là, c'est un exercice de style, mais c'est un exercice de style tout à fait intéressant. Parce que, voilà les figures telles que je les ai refaites, de Piero della Francesca, pour donner finalement l'image d'un cube en perspective dans une position tout à fait scalène. Mais pour faire ça, que fait-il ? Eh bien, vous allez voir les images qui sont là, leur complexité va faire comprendre que Piero della Francesca utilise d'abord deux projections au sol et sur un plan vertical. C'est ce qu'on appelle la double projection, c'est ce qui sera repris par Monge plus tard et par ceux qui feront de la coupe des pierres. Ensuite, il fait basculer le cube vers l'avant et il projette au sol. Ensuite, il fait basculer le cube autour d'un des sommets. Et enfin, alors là c'était vers l'avant, il fait basculer sur une pointe et ensuite il fait tourner le plan de représentation d'un angle donné. C'est-à-dire qu'il utilise toutes les procédures qui jusque-là étaient strictement inconnues, donc il est en train de les théoriser, qui permettent la représentation d'un objet de l'espace dans une configuration tout à fait étonnante. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un peintre ferait ça ? Eh bien parce qu'un peintre veut représenter une tête humaine, et en particulier une tête humaine, ici c'est un dessin de sa main, qui n'est pas un objet de l'espace comme un cube, mais qu'il va cubiser, c'est-à-dire qu'il va mettre cette tête humaine à l'intérieur d'un pavé droit, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire d'un parallélogramme rectangle. Ce parallélogramme rectangle, à l'intérieur de ce parallélogramme rectangle, qu'il va faire basculer ensuite si nécessaire, parce qu'une tête n'est pas toujours droite, eh bien, il va falloir le meubler par l'utilisation de points. Il est en train d'inventer le scanner, notre ami Piero della Francesca, ou plus exactement les lignes de niveau que l'on verra à l'œuvre ensuite dans la géographie. C'est-à-dire qu'il coupe la tête suivant des plans parallèles au plan au sol, pour l'instant, et ces plans parallèles sont eux-mêmes numérotés d'un certain nombre de points. Précisément, il en met 12 en coupant les 360 degrés. Vous voyez ici la tête en vue de profil et là la tête en vue du dessus. Et il montre, il trace des courbes qui sont censées représenter le cou, un certain niveau, le menton, le nez, etc. Il ajoute quelques éléments supplémentaires lorsque les courbes sont relativement complexes. C'est le cas pour le nez, c'est le cas pour les pommettes qui sont un peu saillantes, comme vous pouvez le voir ici, je pense, assez bien. Et puis le nez, puis les pommettes. Et puis là, vous avez, parce qu'il ne peut pas mettre les 12 niveaux qu'il a utilisés, vous avez ça sur deux niveaux, il en met 4 par niveau. Ce travail-là, il le met ensuite en perspective point par point, et ça donne une tête humaine avec plus de 300 points. Si vous voulez reproduire ça pour une édition moderne, comme je l'ai fait, vous êtes obligé de faire tout ça à la main, alors qu'un logiciel permettrait de le faire, mais il faudrait déjà connaître le résultat, c'est-à-dire il faudrait avoir mis le résultat. Si vous voulez suivre le texte à la lettre, vous êtes obligé de placer les points un par un. Et avec un logiciel de dessin, ça peut prendre 2 ou 3 jours. Et puis, il recommence en faisant basculer la tête en arrière. Faire basculer la tête en arrière, ça l'amène à ce dessin. Et si vous regardez dans ce dessin, les yeux qui sont là sont pour la première fois dans la peinture occidentale des yeux qui ne sont pas formés d'une lentille concave-convexe, mais de deux lentilles biconvexes. C'est le constat qu'il fait et qu'il va utiliser. Ce n'est pas simplement qu'un exercice d'école, puisque dans les fresques d'Arezzo, il y a deux personnages au moins dont les yeux sont de cette nature. Celui-ci, dans l'invention de la vraie croix, bien sûr, et puis l'autre qui est dans la bataille bien connue, que vous voyez là, le deuxième personnage qui est là, dont vous voyez un œil qui est de cette nature. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est très facile à réinterpréter en termes modernes. Vous regardez un œil de face, il est biconvexe. Tout va bien. Vous allez le représenter de manière à ce que le résultat soit biconvexe aussi. Mais si vous faites basculer l'œil en arrière, ou si vous faites basculer la tête en arrière, alors la lentille biconvexe devient ce que vous avez là, c'est-à-dire concave-convexe devient une lentille biconvexe comme celle que vous voyez ici, et qui, de face, donne un œil dont je pense que vous comprenez ce que Piero della Francesca en a fait. C'est tout à fait étonnant, évidemment, comme résultat. surtout quand on voit que ça a été mis en œuvre. Alors, l'exposé More Geometrico, je reviens sur la figure que nous avons vue tout à l'heure. En quoi consiste-t-il ? Les géométries pratiques de cette époque contiennent essentiellement des recettes qui permettent à qui veut faire un travail de géométrie, de construction d'une figure, de reprendre dans les éléments d'Euclide les parties constructives des problèmes, de ce qu'on appelle les problèmes. Dans le cas de Piero della Francesca, il est en train d'inventer une science nouvelle. Il a besoin de justifier les choses. La construction d'Alberti était dite légitime. Cette construction légitime, elle avait été légitimée par Alberti en vertu de son résultat. C'est-à-dire que le résultat que produisait cette construction faisait qu'en particulier, l'idée euclidienne que des points alignés devaient le rester dans le résultat de la représentation est effectivement respectée. Il le montre dans un certain nombre de tableaux. On pourrait éventuellement en regarder, de ses prédécesseurs. Par exemple, cette annonciation, alors qui vient de l'école siennoise, donc c'était le nom que je cherchais tout à l'heure, cette annonciation de l'école siennoise, quand on regarde le quadrillage au sol, on se dit « ça marche pas mal ». Oui, ça marche pas mal. Sauf que quand on l'étudie effectivement, on s'aperçoit que ce quadrillage, qui est censé former de lignes régulièrement espacées, qui diminue en effet comme le veut les règles, comme le veulent les règles de la perspective, est un quadrillage dont on s'aperçoit que les lignes diagonales produisent en fait des lignes diagonales de différents carrés produisent des lignes qui ne sont pas dans la continuité les unes des autres, ce qui est parfaitement anormal. C'est tout à fait visible en revanche quand vous regardez cet autre tableau de l'école siennoise qui est tout à fait intéressant, si vous regardez le carrelage au sol, dans la mesure où ce carrelage au sol est formé de pierres de marbre très contrastées, noir, rouge et blanc, eh bien, on s'aperçoit que là aussi, ce qui devrait former des alignements, si la perspective rendait compte de la réalité spatiale, ne donne pas ce résultat. En fait, c'est lié à ceci que les peintres avant Alberti, les peintres avant Alberti utilisaient une règle empirique qui était une règle de calcul qui consistait à placer une première ligne à une certaine distance de la ligne de terre, c'est la première que vous voyez représentée ici, et puis ensuite à prendre les deux tiers de cet espace pour donner la ligne suivante, puis les deux tiers de cet espace pour donner la ligne suivante, et ainsi de suite. Ceci est une progression géométrique en termes mathématiques qui ne pouvait pas donner un résultat satisfaisant dans la mesure où la loi que Piero della Francesca invente, c'est celle qui sera mise en évidence de façon exhaustive au XVIIe siècle par Desargues et qui donnera ce qu'on appelle le birapport seulement au XIXe siècle. On comprend pourquoi Alberti considérait que sa construction, qui ne produisait pas ces espèces de lignes brisées, considérait que sa construction était légitime. Mais Piero della Francesca, lui, éprouve le besoin de légitimer la construction d'Alberti. Il va donc faire un travail more geometrico, c'est-à-dire qu'il va, chaque fois que c'est nécessaire, faire une démonstration de ce qu'il avance est juste. Qu'est-ce qu'il avance dans cette proposition qui est la 13e du premier livre, qui traite essentiellement des figures planes, et qui est la première proposition de perspective, toutes les autres avant traite de questions de géométrie élémentaire dont il aura besoin. Cette proposition dit la chose suivante. Lorsque je dis que la grandeur BC, qui est derrière le tableau vu de profil, le tableau vu de profil, c'est FB. Il est là. Je le regarde d'un œil A. Ce tableau de profil, j'en ai fait un carré, qui est en fait le carré de base que Piero della Francesca essaie d'envisager. Ce carré, il a pour côté BC, ce qui fait que si vous regardez ce carré depuis A, c'est la ligne de fond du carré. Et donc, elle va se redresser dans le tableau à ce niveau. Et c'est à ce niveau qu'il va tracer une ligne parallèle au sol, qui va couper les fuyantes qui vont ici et là vers le point de fuite dit principal, que Alberti désignait comme étant la pointe du prince des rayons. Et cette ligne, dit-il, c'est la ligne qui est l'image de cette grandeur lorsqu'elle est située derrière le tableau à une distance qui est le côté du carré que je cherche à représenter. Autrement dit, il dit que c'est la ligne raccourcie du fait de son éloignement par rapport au tableau. C'est la ligne baissée raccourcie. Il va le démontrer. Comment fait-il ? Eh bien, il va considérer que cette figure est aussi une figure en vue du dessus. Il va dire, supposons que je regarde le même carré en vue du dessus depuis le point A. Lorsque je regarde le point C, son image est ici. Lorsque je regarde le point G, son image est H. Eh bien, je dis que le résultat D', E' que j'ai obtenu là est le bon raccourcissement parce que E, et ce point que je n'ai pas nommé, est le bon raccourcissement. En effet, cette ligne est vue dans le tableau suivant cette longueur. Il lui suffit donc de démontrer que cette longueur est égale à celle-ci pour que, en effet, la construction d'Alberti soit non seulement légitime pour les raisons que, de résultats, pour des questions de résultats, ça donne de bons résultats, mais elle est légitimée cette fois-ci géométriquement. Et elle le sera parce que Piero della Francesca va montrer qu'ici on a une configuration de Thalès, qu'ici on a une configuration de Thalès, il va utiliser de la géométrie euclidienne tout à fait élémentaire, et il va montrer que le rapport de grandeur qui fait passer du petit triangle qui est là au grand triangle qui est là est le même que le rapport de grandeur qui permet de passer de ce triangle-là à ce triangle-là, ce qui fait que les rapports de grandeur entre C, G et la ligne qui le représente, et puis CB et la ligne qui le représente, sont identiques. Ce n'est qu'un exemple, il y en a énormément. Lorsque Piero della Francesca sera plagié par un certain nombre d'auteurs, on verra qu'il est amené à... ils sont amenés à ne pas toujours refaire les démonstrations en question, parce que ce qui les intéresse, c'est la partie pratique. Ça fait de ce traité un traité tout à fait exceptionnel et singulier. Ça n'est pas étonnant d'ailleurs qu'il ait cherché à le traduire en latin. Alors voici par exemple une planche, la toute première, dans laquelle il rappelle les propriétés d'un certain nombre de figures géométriques. Quelles sont les sources de Piero ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il rédige ce traité, c'est-à-dire entre les années 1470 et 1485 à peu près, c'est-à-dire au moment où il réalise aussi le cycle d'Arezzo, justement, eh bien, il ne peut pas connaître d'édition latine ou grecque d'Euclide. D'édition grecque, il n'en existe pas, et s'il existe des éditions latines, elles sont traduites de l'arabe. Et c'est sensible, par exemple, dans le nom qu'il donne au parallélogramme. Il dit, c'est semblable, similé, hal muahim. C'est en tous les cas ainsi qu'on l'appelait dans certains traités, y compris des traités en latin où l'on reprenait le mot arabe parce qu'on ne savait plus comment appeler cette figure qu'est le parallélogramme ou le rhombe dans le langage occidental. C'est Euclide et c'est exclusivement Euclide. Cela dit, on le voit, c'est un Euclide assez singulier puisque ça n'est pas encore la grande tradition de traduction en latin des textes grecs retrouvés dans la seconde Renaissance et donc essentiellement à la toute fin du XVe siècle et au XVIe siècle. On a ici donc un auteur qui ne masque pas ses sources, hein, puisqu'il est nécessaire d'indiquer quelle est la doxa, mais c'est aussi quelqu'un qui va être abondamment plagié. Alors je vais vous montrer des figures de son traité qui, d'une part, influencent la peinture très très nettement, la sienne évidemment, mais aussi celle de son école, l'école d'Urbino. Par exemple ici un puits ou une maison dans laquelle les points sont numérotés, et c'est la première fois en géométrie, par des nombres, de façon systématique, et des nombres qui sont très astucieusement répartie. C'est-à-dire que si, par exemple, il veut numéroter les fenêtres qui sont au premier étage, il va les numéroter en utilisant des nombres à deux chiffres. Si il veut numéroter les arcades qui sont, vous le voyez ici, il va éventuellement passer à des nombres à trois chiffres, même s'il n'a pas épuisé les nombres à deux chiffres. Ça permet dans le discours de se repérer plus facilement. C'est une des techniques qu'il utilise. Il y a ici plus de 300 nombres. Chacun des points qui sont sur la figure sont construits. Autrement dit, la construction est effectuée point par point et dans l'ordre même où quelqu'un qui aurait à la faire la ferait. Ce qui fait qu'encore une fois, vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre le discours pour faire les figures. Il était hors de question que les gravures soient faites et que le texte soit laissé en l'état. Les gravures auraient sûrement produit des choses tout à fait étonnantes. Alors, pour vous donner une idée de l'influence du côté de la peinture, voilà par exemple la cité idéale d'Urbino, qu'on a quelquefois attribué à Piero lui-même et puis ensuite à un certain nombre d'architectes de son école. Vous avez le puits octogonal qui est là, qui n'est pas tout à fait le même que celui que je vous ai montré, puisqu'il est hexagonal, mais qui se construirait de la même manière. Et puis les façades que vous voyez à gauche. Il est clair que Piero della Francesca a influencé Dürer. La figure qui est là est directement inspirée d'une figure qui précède celle que je vous ai montrée tout à l'heure dans le traité de Piero, et qui montre comment, en regardant d'un certain point de vue, celui de l'homme qui est ici, on voit le bout du carré. La seule différence, c'est que Dürer a légèrement écarté son carré de base par rapport au profil du tableau. Dürer est allé en Italie en 1506. Il y est allé deux fois. Il est allé à Bologne et Luca Pacioli était dans les parages. Donc quand il dit dans ses lettres à ses correspondants à Nuremberg qu'il a appris des secrets de la perspective italienne, nul doute qu'il a appris ça, si ce n'est de Luca Pacioli lui-même, puisqu'il ne le cite pas, d'Epigone, de Piero della Francesca ou de Luca Pacioli. Et donc, le fameux procédé que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, on le retrouve dans des dessins, des manuscrits de Dürer, en voilà un, où il reprend strictement le procédé de Piero della Francesca avec les deux diagonales. Et puis, dans la réédition de son traité, l'Unterweisung der Messung, qui est le traité de géométrie pratique de Dürer dans lequel il expose la perspective, vous retrouvez un deuxième procédé qui est alternatif, dans lequel il utilise le procédé de la diagonale, mais en plaçant la diagonale comme si le tableau n'était pas rabattu par charnière autour de AB, mais comme s'il était à l'identique de celui-ci, c'est-à-dire que les deux diagonales ne se coupent pas au point A, comme dans la version de Piero della Francesca. Mais il n'empêche que la méthode de construction interne, vous le voyez, qui donne par exemple le point E, est tout à fait similaire à celle de Piero. Vous noterez qu'en revanche, il n'utilise pas la notation de Piero, qui consisterait à appeler l'image du point E ici, E, et c'est ici une perte de sens. Piero a influencé énormément d'auteurs, c'est probablement le cas de Serlio dont je parlais tout à l'heure. Quand vous regardez par exemple ceci, vous pouvez vous dire que c'est très probablement la méthode d'Alberti, sauf que c'est une règle qui est fausse, parce que Serlio hérite en fait d'un travail mal digéré par probablement Baldassare Peruzzi, qui est son maître. Serlio dit qu'il ne connaît rien à la perspective et que s'il fait un traité de perspective dans son traité d'architecture, c'est parce qu'il a pris des notes de son maître Baldassare Peruzzi, qui est par ailleurs architecte et peintre, mais qui lui n'avait pas rédigé son traité, ou en tous les cas ne l'avait pas fait imprimer. Et donc on peut considérer que le traité de Serlio est pour une bonne part, mis à part ce qu'il consacre à son œuvre architecturale proprement dite, est pour une bonne part hérité de Peruzzi. Or, Peruzzi a travaillé avec Raphaël, et Raphaël a appliqué cette fausse règle, en particulier dans un mariage de la Vierge qu'on peut voir à la Brera, et qui est en fait, non pas la copie conforme, mais une interprétation qu'il a faite dans l'atelier de Pérugin, qui a lui-même produit un traité un mariage de la Vierge qu'on peut voir au musée des Beaux-Arts de Caen. Le mariage de la Vierge de Pérugin est parfaitement exact du point de vue de la perspective. Celui, petite exception près, celui des Raphaël est faux, ça ne se voit pas. Mais une étude faite, et c'est en cela que les mathématiques ici peuvent apporter un peu de lumière, une étude faite sur le tableau de Raphaël a mis en évidence, j'ai pu mettre en évidence que la règle qu'a utilisée Raphaël est celle de Serlio, ce qui permet de comprendre pourquoi en 1545, Serlio utilise une règle erronée, mal digérée d'une règle voisine de Piero della Francesca, qui elle est juste, et que l'on doit probablement à Baltasar Peruzzi, qui a dû l'apprendre à Raphaël. C'est possible, à moins que Raphaël ne l'ait utilisé dans la mesure où le mariage de la Vierge de Raphaël est un petit peu antérieur au travail qu'il a commis avec Peruzzi au Vatican. Voilà un autre exemple de planche de Serlio dont on voit bien qu'elle est parfaitement inspirée de la voûte en arc de cloître que l'on peut trouver chez Piero della Francesca. Cette voûte en arc de cloître de Piero della Francesca, elle aussi nécessite plus de 200 points pour une construction, avec des notations évidentes. Voilà une autre planche de Serlio, qui est tout à fait inspirée de ce que vous avez vu tout à l'heure, du point de vue des édifices vus de côté. Voilà une planche de Serlio qui est tout à fait inspirée de ce dessin de Piero della Francesca, à ceci près que Serlio va ajouter une corde à son arc, qu'il a probablement emprunté cette fois-ci à Dürer, qui est les ombres portées. Alors, il y a quelqu'un qui, lui, ne se prive absolument pas de consulter l'œuvre de Piero della Francesca, qui a donc été très très bien connue, c'est Barbaro, Daniele Barbaro, qui publie en 1563 un ouvrage dans lequel il va reprendre les figures de Piero della Francesca. Je ne sais pas si je vous ai montré celle-ci, c'est celle que Dürer reprend. Telle que vous la voyez ici, du fait de la gravure, elle est orientée droite-gauche par rapport à l'original manuscrit de Piero della Francesca qui est orienté gauche-droite. Celle-ci est une interprétation pour les besoins de quelqu'un qui n'a pas compris le texte de Piero della Francesca. C'est une interprétation de la planche 13 que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y ajoute son grain de sel, mais voici des exemples où Barbaro reprend très exactement, avec les notations de Piero, le texte de Piero, presque à la virgule près, et avec une gravure qui est orientée droite-gauche, par un phénomène bien connu, évidemment. Cette construction que vous voyez là, c'est celle que Piero della Francesca indique pour prolonger le quadrillage, non pas en largeur, mais en profondeur. C'est de là que vient l'erreur de Serlio, très probablement. Ceci, c'est la construction de Piero della Francesca qui utilise pour la première fois dans l'histoire de la perspective ce qu'on appelle les points de distance et que l'on retrouvera ensuite dans toute la tradition française, Viator, Cousin, Androuet du Cerceau, etc. Ceci, c'est un extraordinaire théorème qui clôt le livre 1 de Piero della Francesca. Là encore, l'image est renversée droite-gauche. Et le texte qui l'accompagne est, mis à part les conclusions, à l'identique, à la virgule près, à ce que donne Piero della Francesca. C'est un texte qui explique pourquoi il ne faut pas dépasser 90 degrés d'angle de visée. En fait, Piero della Francesca estime que si on dépasse 90 degrés, on se retrouve avec des images plus grandes que les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que la fiction dépasse la réalité, si je puis dire, en termes de grandeur. Et ça, c'est tout à fait impossible pour la doxa euclidienne. Ce qui est vu est au plus égal, ce qui est la représentation, en tous les cas, la chose vue, est au plus égal à la chose réelle. C'est évidemment quelque chose qui donne lieu à l'anamorphose, et on terminera là-dessus tout à l'heure, en montrant deux ou trois planches de Piero della Francesca qui sont tout à fait étonnantes. Voilà ce que donne une planche de Piero chez Barbaro, c'est encore de la gravure sur bois. Voilà ce que donne quelque chose que l'on retrouvera d'ailleurs chez Dürer, les planches que je vous ai montrées tout à l'heure de Piero della Francesca sur la tête humaine. C'est évidemment beaucoup moins séduisant que le remarquable travail fait par Piero della Francesca. Je voudrais... Ouais, c'est pour ça, je voudrais juste terminer. Absolument, je vais revenir là-dessus. Je crois qu'elles sont à la fin. parmi les innovations extraordinaires de Piero della Francesca, il y a quelque chose qui n'a pas été toujours bien repéré ou bien interprété, c'est un travail de trompe-l'œil. Il explique dans les trois dernières propositions de son livre 3 comment on peut dessiner sur une table une balle pour donner à voir cette balle comme si elle était érigée sur la table. Alors en fait, ce que vous voyez, c'est le dessin qui est en bas à droite. Ce qui est important, ce n'est pas la balle elle-même, qui, vous voyez, est coupée suivant des lignes de niveau exactement comme la tête humaine un peu auparavant dans le traité. Et cette balle est projetée sur un plan, c'est-à-dire que c'est la perspective inverse. Autrement dit, il est en train de réaliser quelque chose de tout à fait contradictoire avec la proposition que je vous ai montrée tout à l'heure, la proposition 30 du livre 1, c'est-à-dire qu'il va représenter une balle qui est excessivement allongée, qui a une forme d'ellipse. Si vous regardez la table en vue du dessus, vous verrez une ellipse, vous ne verrez pas une balle. En revanche, si vous la regardez d'un point de vue, par exemple en entrant dans la salle, vous verrez une balle et vos yeux vont éventuellement, votre cerveau va vous tromper parce que vous croirez voir une balle sur la table alors que ça n'est qu'une illusion d'optique. C'est l'un des premiers trompe-l'œil qui sera d'ailleurs réalisé par la suite, par exemple au sol. Vous avez des choses comme celle-là. En termes modernes, les pistes cyclables, c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire que les roues de vélo sont représentées comme des ellipses pour être vues de loin comme des roues de vélo, et donc comme des cercles. Et cette idée-là, qui est donc le premier trompe-l'œil établi more géométrico, puisqu'il démontre effectivement que c'est juste, eh bien, vous le voyez ici. Vous voyez ensuite un rafraîchissoir, une coupe à fruits, si vous voulez, qui est posée sur une table, et qui est dessiné, vous le voyez, complètement, je dirais, anamorphosé, même si le mot n'est pas encore lâché. Et enfin, sur un plan, cette fois-ci au-dessus de soi, un anneau qui est suspendu et qui est représenté sur le plafond, c'est-à-dire que c'est quasiment la théorisation du décor plafonnant qui va se développer effectivement au XVe, XVIe siècle, au travers des œuvres maniéristes et baroques. Donc quand je dis que ce traité contient en soi tous les éléments de développement, aussi bien de la peinture, le décor de théâtre, le décor plafonnant, l'anamorphose, etc., le trompe-l'œil, que du côté de la géométrie, vous comprendrez pourquoi il joue un rôle si important. Et il joue un rôle excessivement important aussi du côté du vocabulaire géométrique, je vous l'ai dit, à cause de ces innovations qui vont être petit à petit découvertes par ceux qui auront accès aux copies de cet ouvrage et réintégrées. C'est ainsi que l'ancienne doxa euclidienne qui faisait que deux figures identiques dans le traité d'Euclide, traitées dans un ordre différent, pouvaient être lettrées différemment, vont devenir petit à petit des figures lettrées de la même manière. On ne pourra plus faire de la géométrie en créant des textes qui sont extrêmement difficiles à lire du fait que le lettrage des figures relevait d'un alphabet à 24 ou à 26 lettres, suivant qu'il s'agisse de l'alphabet grec ou de l'alphabet latin. Piero della Francesca venait d'ouvrir la voie à l'indexation, qui va pourtant mettre du temps à se développer, puisque par exemple du côté de l'algèbre, les premiers cas d'indexation se trouvent seulement au XVIIIe siècle, dans des ouvrages comme ceux de Cramer sur la naissance des déterminants. C'est vous dire qu'il faudra attendre un petit moment. Mais Serliot, par exemple, en prendra de la graine, puisque c'est l'un des premiers à traiter les rayons visuels ou les lignes occultes en utilisant des pointillés, qu'on retrouvera ensuite chez Philibert Delorme et d'autres. Donc c'est véritablement des innovations en marche que l'on doit à Piero della Francesca qui vont être utilisées tout au cours du XVe, XVIe siècle. J'espère vous avoir convaincu de relire Piero della Francesca et ne pas vous avoir fait croire que ce n'est pas un peintre. Certes, c'est un peintre, mais je trouve étonnant que quand on édite les œuvres graphiques complètes de Piero della Francesca, quasiment aucune des figures de ces trois traités, car il y a des figures aussi dans le traité de la Bac, c'est-à-dire son algèbre, et le trait des décors réguliers ne sont reprises. Je trouve ça tout à fait dommageable. Les œuvres complètes d'un peintre devraient contenir aussi ces images graphiques et théoriques. Je vous remercie.
marche pas le micro.
Prenons celui-là.
Très bien, il n'y a pas de souci. Donc, je te remercie beaucoup. C'était une très belle conférence d'avoir fait connaître ce traité de Pirol et la Francesca. Ta conclusion, en effet, est-ce que tu veux dire?
Oui.
Parce que on ne regarde pas une œuvre uniquement
en termes esthétiques, par exemple.
Voilà, en termes esthétiques. Et je regrette qu'il n'y ait pas j'aurais bien aimé ici qu'il y ait des étudiants des beaux-arts. Je regrette que ma fille qui est aux beaux-arts ne soit pas là parce que tu ne seras pas capable d'expliquer ce que tu nous as expliqué avec vraiment beaucoup de connaissances.
Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais.
L'art et les sciences sont vraiment réunis. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre Le Goff, en tout cas.
Alors, ce livre ?
Ceci, c'est la version italienne qui était parue en 1942. C'est Madame Nico Fazzola qui avait repris le texte, qui a fait une très très bonne édition du texte, avec en corrigeant la plupart des erreurs qu'avait faites Winterberg. À mon avis, il y avait moyen d'améliorer ça encore, sauf que l'éditeur français n'a voulu publier que ma traduction. J'avais fait une édition critique du texte italien. Celle-ci sera probablement sur Internet prochainement, puisque je vais avoir un petit peu plus de loisirs maintenant pour me lancer dans un site de littérature mathématique, car je ne l'ai pas dit en préambule, mais c'est une chose tout à fait essentielle. Cette littérature-là n'est pas connue, elle n'est pas connue des matheux. Les matheux sont oubliés de leur passé. Or, je pense que l'un des problèmes de l'enseignement des mathématiques, en France en particulier, souffre de cette méconnaissance de sa propre histoire. Et cette littérature mathématique, elle est intéressante, elle peut donner l'occasion de travailler avec, en particulier, des départements de langue ou de lettres. Ce que j'ai fait à Caen couramment. Je travaille avec le département d'italien. On a publié les actes d'un travail sur Léonard de Vinci il y a quelques années. On est en train de mettre en ligne des textes fondamentaux. Le texte de Serlio que je vous ai montré, c'est un texte que je suis en train d'éditer en italien dans la langue d'origine, dans le français de Jean Martin et dans une traduction française nouvelle, parce qu'il faut donner à entendre ces textes-là de façon moderne. Il faut que ces textes soient lisibles, soit que les chercheurs puissent les avoir à disposition et pas dans des versions qui soient simplement des versions numériques de l'ouvrage, qui doivent être là pour des références, parce qu'on peut faire des erreurs, mais aussi dans des versions modernes qui sont utilisables par les enseignants.
Est-ce que tu as l'adresse du site
Il n'est pas encore créé. C'est pour ça que je parle de loisirs.
Mais y a-t-il des questions?
Je ferai en sorte qu'il existe vite. Ouais.
Besoin. Si, bon. Oui, moi je me suis posé la question de la filiation entre ce travail des peintres et des architectes et mathématiciens et puis finalement l'élucidation de l'optique géométrique qui a permis alors au XVIIe siècle de faire la lunette de Galilée. Est-ce que des gens comme Huygens et Descartes est-ce qu'on a connaissance est-ce qu'ils se sont inspirés de ces travaux-là pour faire avancer l'optique?
C'est un peu compliqué, parce qu'encore une fois, je pense très, très franchement, contrairement à, disons, une ligne générale d'histoire de ces questions qui a tendance à dire l'optique et la perspective sont apparentées, moi je pense que les mots ont un sens, et qu'à partir du moment où les perspectives ne désignent plus des optiques, c'est qu'on a bien compris qu'il y avait une différence entre la perspectiva naturalis et la perspectiva artificialis. C'est très exactement les mots qu'utilise Viator pour intituler son traité en 1509 à Toul. Donc perspectiva artificialis. Autrement dit, on a parfaitement bien compris que dans un cas, on est dans l'étude de l'optique, c'est-à-dire la question de la lumière et la question de la vision, avec toutes les questions qu'on se pose sur la nature de la lumière, évidemment. Et puis dans l'autre, on est dans la question de la représentation. Quand ces choses-là sont dégagées, ça fait deux objets qui deviennent assez différents. Ce qui n'empêche en effet que quelqu'un comme Stevin, par exemple, au XVIe siècle, va publier une perspective tout à fait importante. C'est un jalon entre les premiers perspecteurs dont je viens de parler et puis le Desargues dont j'ai parlé aussi. Stevin et d'autres, Guido Baldo del Monte, etc., sont des auteurs importants de ce point de vue-là. Ils vont écrire des choses en optique, mais ils ont parfaitement conscience de faire la différence. Ce qui fait, par exemple, que Stevin, quand il écrit en latin, ou quand il fait traduire son traité qui est écrit en flamand en latin, va utiliser le mot « schiagraphie » pour perspective. Dans certaines versions latines ultérieures, on trouvera le mot « perspectiva » pour la perspective, et le mot « optica » pour ce qui relève de l'optique pure et dure. Et le mot optique, ensuite, va se différencier de trois manières, c'est-à-dire l'optique, la dioptrique, la catoptrique, c'est-à-dire les rayons lumineux qui sont déviés, c'est-à-dire ce qui relève des rayons brisés, et puis la catoptrique, alors la dioptrique, excusez-moi, c'est la réflexion dans le miroir, et la catoptrique, c'est les rayons réfractés. D'accord. Alors, vous trouvez ça, et vous trouvez ça, évidemment, chez des gens qui peuvent aussi bien traiter de perspective que d'optique. Mais pour donner un exemple, au XVIIe siècle, Desargues s'intéresse à la perspective, mais les choses qu'il apparente à la perspective, c'est plutôt la stéréotomie, parce que les méthodes sont les mêmes, et la gnomonique, c'est-à-dire l'art des cadrans solaires, parce que les méthodes sont les mêmes. C'est ça qui va lui permettre ensuite d'écrire un grand traité de conique, dont j'ai donné le nom au début, qui est de nature géométrique pure. En même temps, Mersenne, qui va publier La perspective curieuse de Nicéron, par exemple, y ajoutera des éléments d'optique de son cru au moment de cette édition, parce qu'il a bien conscience qu'il y a des rapports. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que l'anamorphose chez Nicéron, il y a aussi le fait qu'on peut créer des effets merveilleux en utilisant des miroirs et en utilisant des dioptres. Donc ça va dépendre d'où on parle. Quand on parle du point de vue de la géométrie, la perspective devient vraiment de la géométrie pure, d'une certaine manière. Quand on parle du point de vue d'un Nicéron, c'est-à-dire d'un minime, ou d'un Kircher, c'est-à-dire d'un jésuite, il s'agit de fabriquer des images merveilleuses. Et là, on fait feu de tout bois. C'est-à-dire la perspective et les dérivés de l'optique, c'est-à-dire la dioptrique et la catoptrique, sont des sciences que l'on va développer parallèlement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, oui, c'est très complexe, oui.
Nous allons suivre des cours de l'École du Louvre au deuxième trimestre sur Piero della Francesca. Oui, oui. Alors bon, ce n'est pas une question que je vous pose, je me pose la question. Vont-ils nous parler de tout ce que vous avez
soulevé ? Je ne saurais pas vous dire. En général, on parle de la perspective en des termes assez généraux et qui sont tout à fait justes d'une certaine manière, parce que le mot perspective est utilisé pour parler de tous les modes de représentation du réel qui donne à voir quelque chose de reconnaissable. À la limite, on peut parler de perspective à propos des grottes de Lascaux. On peut parler de perspective dans toute la peinture à ou pré-perspective. Quand je parle de peinture à perspective, ce sera le cas de la peinture chinoise. Autrement dit, ce n'est pas une peinture du sujet, pas au sens du sujet que l'on peint, hein, pas au sens de « je vais sur le motif », mais du sujet, celui qui regarde. La grande différence du monde occidental dans cette affaire par rapport à d'autres contextes de civilisation, c'est que, au fond, Brunelleschi invente Video Ergo Sum entre Saint-Augustin et Descartes, qui lui dit Cogito Ergo Sum. Et il y a là un moment tout à fait essentiel et privilégié qui va complètement modifier. La philosophie occidentale devient opticienne, pas au sens de l'optique physiologique dont je parlais tout à l'heure, mais opticienne au sens où elle va s'intéresser à l'effet de la représentation des objets de l'espace. Alors, ils vont s'intéresser aussi à la couleur, etc. Goethe, Berkeley, enfin tous. Ça n'est plus possible de penser autrement. Donc c'est vraiment un moment tout à fait fondateur. Malheureusement, l'école d'histoire de l'art française, qui a été longtemps dominée par André Chastel, pour qui j'ai la plus grande estime, mais avec qui j'avais eu une discussion un peu sévère une fois lorsque je vais présenter ce traité, d'ailleurs, à l'Institut italien à Paris, Chastel considérait que la perspective était juste une affaire de marketeur. Alors, je le connais suffisamment pour savoir que c'était une boutade et qu'il pensait quand même plus sérieusement la question que ça. Mais dans les faits, j'avais été amené à faire la formation des conférenciers du Louvre à un moment donné sur la perspective parce qu'ils étaient demandeurs. Pour autant, je ne sais pas si c'est encore eux qui font les conférences en question. Et il y a tellement à dire sur Piero della Francesca que la question perspective peut très bien être oubliée ou traitée à propos de la flagellation. Bien. Oui. Non. Oui, les demandes, oui. Oui, mais, Oui, mais c'est la première fois que, enfin, c'est l'une des premières fois où les demandes, c'est la perspective elle-même qui permet de les. J'ai beaucoup mieux que ça, d'une certaine manière, depuis. Il se trouve que c'est un tableau qui est au Musée des Beaux-Arts de Caen. C'est une Annonciation de Paris-Bordonne. Si vous avez besoin de renseignements sur tout ça, vous écrivez là et je vous enverrai cela. Un tableau de Paris-Bordonne, c'est une Annonciation qui fait un truc, mais à tomber par terre. Vous regardez ça, vous dites, ça tient pas debout. Vous avez une Vierge qui est au premier plan et l'ange qui est dans un second plan, très loin dans une architecture, au point que si les deux doivent se rencontrer, alors lui, c'est un nain. En fait, il ne peut pas, parce que tel qu'il est placé, il ne se dirige pas vers la Vierge. Donc la Vierge a été projetée en avant. Elle est probablement dans une chambre au fond de l'architecture, mais elle est mise en avant. Et le peintre a imaginé que ce soit le tableau lui-même, c'est-à-dire la vitre d'Alberti, qui soit la séparation entre les deux mondes. Alors un géomètre, un mathématicien, sait parfaitement bien que c'est illusoire, parce que vous pouvez représenter un tableau en plus petit par une homothétie. Enfin bon, donc ça n'a pas, du point de vue moderne, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais si on suit les règles d'Alberti, ce que faisait encore Paris-Bordonne en 1540, c'est le tableau qui sépare le monde de l'ange et le monde de la Vierge. Ce faisant, il est en train de montrer pour la première fois de l'histoire de la peinture l'en-deçà de la fenêtre. Car les règles d'Alberti, c'est pour représenter l'au-delà de la fenêtre. Représenter l'en-deçà de la fenêtre, c'est donner la possibilité au géomètre un jour, et ce sera le cas de Desargues, de penser non seulement l'au-delà de la fenêtre, mais l'en-deçà de la fenêtre, mais même les idées de derrière la tête. C'est comme ça qu'un Desargues est capable de penser l'hyperbole avec ses deux branches comme une seule et même courbe, alors que jusque-là, tous les géomètres pensaient que c'était deux hyperboles opposées. Donc, si vous voulez, quand je dis que la peinture travaille les mathématiques et la géométrie, c'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain mot. Et c'est vrai de tout un tas d'autres choses, c'est-à-dire que les mathématiques, ce n'est pas une science platonicienne. C'est un mixte. C'est une science aristotélicienne par certains aspects, au sens cette fois de l'Aristote de la physique. C'est-à-dire que les mathématiques se sont construites sur le réel. On ne m'ôtera pas ça de la tête, alors que j'ai été formé par l'école bourbakiste, donc je suis un néo-platonicien et content de l'être, mais je me bats contre ça, parce que si on est un pédagogue, c'est-à-dire si on veut enseigner les mathématiques, il faut quitter ces oripeaux-là pour passer à autre chose. Voilà. Raison pour laquelle je fais un séminaire d'histoire des mathématiques pour néophytes à l'Université populaire, dont les gens sortent en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit ça ?» Voilà. Et ça me paraît absolument indispensable. Je ferai une séance sur l'histoire de la perspective, je le dis, après tout, c'est le petit moment d'autopromotion, mais c'est parce que ça me semble important, à l'Université populaire qui se délocalise à Paris cette année pour quelques séances, au Théâtre du Rond-Point. Donc je crois le 1er mai, puis après au mois de juin sur la question de l'enseignement des mathématiques. Voilà. Donc si vous voulez des prolongements, vous écrivez là, mais je crois qu'il faut qu'on rende la salle maintenant.
C'est très gentil à toi, Jean-Pierre. Je savais qu'on ne pourrait pas s'arrêter. Je regrette bien. De toute façon, on va monter. Puis si des personnes veulent discuter avec toi, ils peuvent encore.
Exactement.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Le Goff. Merci à tous. Au revoir.